début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po.
Et grand spécialiste de la Russie. Bonjour Cyril Brett.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine vont échanger aujourd'hui en visioconférence. Et au menu de ces discussions, il y a l'Ukraine. Car pour la deuxième fois de l'année et 7 ans après l'annexion de la Crimée, Moscou est en train de masser plus de 100 000 soldats à la frontière comme si une invasion était imminente. À quoi joue Vladimir Poutine ?
À tester la solidarité des Occidentaux autour de l'Ukraine et à rappeler que l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN est une ligne rouge pour lui, juste avant son entretien avec le président Biden.
Ce n'est pas du bluff ?
C'est tout à la fois des manœuvres extrêmement réelles et une invasion qui est peu probable. Il s'agit de manœuvres qui sont réalisées sur le territoire de la Fédération de Russie, donc apparemment c'est normal, mais le tempo est absolument préoccupant puisque la moindre provocation, le moindre prétexte sur le territoire ukrainien peut servir de justification pour une pénétration de troupes russes dans l'est de l'Ukraine qui est déstabilisée, vous l'avez rappelé, depuis 2014.
Et puis l'histoire regorge de conflits qui ont débuté par erreur, donc les Russes n'ont a priori pas l'intention de faire la guerre, mais le risque de guerre, lui, est bien réel, avec autant de forces dans un si petit périmètre.
Il est bien réel et les forces séparatistes pro-russes sur le terrain ne sont pas directement et intégralement contrôlées. Donc on n'est jamais à l'abri d'un incident, d'un tir, d'une initiative sur le terrain qui nécessiterait de la part de la Russie une intervention ou qui paraîtrait nécessiter de la part de la Russie une intervention pour ne pas perdre la face ou pour ne pas perdre le rapport de force.
Oui, parce qu'on rappelle que la guerre débutée en 2014 avec l'annexion de la Crimée n'est pas terminée dans le Donbass, région séparatiste où les combats sont quotidiens. D'ailleurs, le président ukrainien Zelensky s'est rendu hier dans les tranchées avec tout l'attirail pour en découdre.
Eh oui, c'est encore un champ de bataille ouvert, actif, régulièrement rallumé, qui est sur le territoire de notre continent, comme si la guerre ne voulait pas le quitter.
Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine met à ce point cette pression ? C'est juste au sujet de l'OTAN dont vous nous avez parlé en introduction de cette interview ?
Au sujet de l'OTAN, au sujet de l'Union européenne, au sujet également des prises de position de la nouvelle administration, enfin l'administration Biden, disons, qui est beaucoup plus dure que la précédente envers la Russie. Et puis, pour la Russie, c'est une question existentielle. Avec la fin de l'URSS, il y a maintenant 30 ans, la Russie est dépourvue de son espèce de glacis, de bastion qui la défendait à l'ouest. Aujourd'hui, l'Ukraine est comme le ventre mou et le pays dans lequel sont présents directement des forces militaires américaines et un soutien militaire européen. Quand on est dans l'est de l'Ukraine, on est à un jet de pierre de Moscou et donc Moscou ne peut que considérer que c'est une menace pour lui.
Donc Moscou considère l'Ukraine comme son précaré.
Ou en tout cas comme la zone d'où viendra la prochaine menace ou le risque stratégique majeur.
Quelle est la position de Joe Biden ? Parce qu'il ne s'est jamais réellement exprimé sur ce dossier, en tout cas sur cet amoncellement de soldats à la frontière ukrainienne. Et à vrai dire, on le sent plus intéressé par ce qui se passe du côté de la Chine. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous avez parfaitement raison. Et c'est dans toutes ces déclarations, le rival, le grand rival géopolitique des États-Unis, ce n'est plus la Russie, c'est la Chine. D'ailleurs, les États-Unis viennent de le rappeler cette nuit en boycottant au niveau diplomatique les prochains Jeux olympiques d'hiver à Pékin. La Russie est d'importance, mais d'importance secondaire dans la stratégie et du candidat, puis du président Biden. C'est un problème local avec lequel on doit traiter à un niveau local.
Alors on ne le souhaite pas, évidemment, mais si un conflit venait à se déclarer, est-ce qu'à défaut de pouvoir retenir l'armée russe, les Ukrainiens ont les moyens de faire chèrement payer l'invasion de leur pays ?
Oui, depuis 2014, l'État ukrainien a reconstitué des forces économiques, grâce au soutien financier d'ailleurs des Européens, et des forces diplomatiques. Le réseau d'alliances ukrainiens est beaucoup plus solide maintenant. On le voit avec l'intérêt que les Européens, les Américains portent au destin de l'Ukraine et des forces militaires. Les forces militaires ukrainiennes ont été modernisées, encore une fois, grâce au soutien des Occidentaux, non seulement au niveau des équipements, mais également au niveau des entraînements et des modes opératoires. Vous l'avez rappelé, c'est un champ de bataille, et sur ce champ de bataille, les deux parties se sont entraînées, se sont formées. Effectivement, c'est ce qui fait redouter que la moindre étincelle pourra dégénérer en brasier et en véritable bataille à proprement parler.
Alors on parle des Russes, on parle des États-Unis, mais où est l'Europe dans tout ça? Parce que l'Ukraine, jusqu'à preuve du contraire, c'est en Europe?
L'Europe, elle est partout. Elle a renouvelé constamment des sanctions contre ceux qu'elle considère comme les fauteurs de troubles en Russie et en Ukraine. Et c'est un résultat à soi seul, parce que plusieurs États européens sont contre cette politique de sanctions. Elle est dans les finances publiques ukrainiennes. Elle tient à bout de bras les finances publiques ukrainiennes directement et par l'intermédiaire du FMI. Et puis, elle est dans le soutien constamment renouvelé du couple franco-allemand à la souveraineté ukrainienne. Et là encore, à travers les vicissitudes de la dernière décennie, c'est un résultat qui est très important. Les États-Unis sont peut-être les soutiens les plus visibles de l'Ukraine, mais les plus efficaces sont les Européens.
Merci beaucoup Cyril Brett de nous avoir éclairé ce matin. Je donne le titre de votre dernier livre, 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au 21e siècle, c'est chez Armand Collin. Très bonne journée à vous.
Merci.